Bonsoir Alexander Kerry. Merci d'être en direct avec nous ce soir dans 22h Max. Vous êtes journaliste, auteur notamment de Carnet de bord de la résistance ukrainienne aux éditions du Nouveau Monde. Vous êtes en Ukraine, vous êtes du côté de Kharkiv. Une première question, d'après les informations qui nous parviennent, toute la région de Kharkiv est désormais contrôlée par les Ukrainiens. Les Russes ont totalement quitté la zone. Est-ce que vous confirmez, est-ce que c'est ce que vous voyez sur le terrain ?
Alors je confirme d'ailleurs, je tiens à saluer les collègues que j'ai croisés aussi à Kupiansk pour ce reportage. Je confirme, mais effectivement, en effet, le problème c'est que lorsque les Ukrainiens disent qu'un territoire est libéré, il n'est pas nécessairement sécurisé, dans le sens où même à Kupiansk, notamment, on entendait encore des tirs d'artillerie. Ce matin, j'étais un peu plus au nord. Effectivement, on a aussi essuyé des tirs d'artillerie. Les Russes sont toujours là et en fait, finalement, ils se vengent à chaque fois qu'un territoire est libéré. Ils se vengent sur les civils et sur les territoires environnants de leur défaite. Donc, une libération, un drapeau hissé dans un territoire, ça ne veut pas nécessairement dire que le territoire est sécurisé pour les habitants. Ce qui est d'ailleurs un petit peu problématique parce que beaucoup d'habitants, quand ils voient ce drapeau ukrainien hissé justement sur les administrations locales, se disent voilà, je peux rentrer finalement. Et c'est pas du tout le cas.
Ça veut dire que dans ces zones-là, entre guillemets libérées, en réalité, les combats continuent. Les Ukrainiens
se réinstallent.
D'accord.
C'est-à-dire que les Ukrainiens se réinstallent, les troupes sont là, mais l'armée russe continue à pilonner de temps en temps en fait les villages environnants. Le but c'est de repousser l'armée russe jusqu'au bout, jusqu'à la frontière, et même quand ils arrivent jusqu'à la frontière, ils continuent à pilonner de l'autre côté. Donc le tout en fait c'est simplement pour les Ukrainiens aujourd'hui d'infliger une défaite assez lourde, ou en tout cas de détruire assez d'équipements d'artillerie, notamment grâce à sans doute des nouveaux HIMARS qui vont arriver pour justement empêcher ça. Aujourd'hui, j'ai pu assister effectivement à ces tirs d'artillerie et le même jour, justement, il y a quelques heures après, deux civils ont été tués par ces tirs d'artillerie. C'est une pression constante justement sur les soldats ukrainiens et aussi sur les civils. Mais ce qui est vrai, effectivement, c'est que cette avancée est très rapide. Pourquoi cette avancée est très rapide ? Parce que les Russes, en tout cas, c'est ce qu'un soldat qui a fait partie de cette contre-offensive m'a dit, c'est que les Russes avaient préparé, sous-estimé l'armée ukrainienne et préparé seulement une ligne de défense, et pas une deuxième ligne de défense, ni une troisième, donc il n'y avait pas creusé de tranchées, finalement, parce que j'imaginais sans doute que la victoire serait facile. Mais c'est d'ailleurs, ça explique en fait l'effondrement assez rapide de ces lignes-là, à la fois à l'est et aussi au sud, puisqu'au sud, on est sur une avancée de 30 km, ce qui est absolument énorme.
Reste avec nous, Alexander Kerry. Ulysse Gosset, c'est important ce que dit Alexander à l'instant. Ça montre encore une fois à quel point les Russes ont sous-estimé la force des Ukrainiens, j'allais dire 7 mois après le début du conflit.
Oui.
Ils en sont encore là.
Oui, mais surtout, ils ont été surpris par les succès de la contre-offensive. Alors, les Russes, au début, n'ont pas accordé trop d'importance en parlant simplement de chute de quelques villages. C'est pas des points stratégiques pour eux. Et en réalité, la chute des villages précède la chute des grandes villes. Et c'est ce qui va se passer sans doute au sud. Et c'est ce qui s'est passé dans la région dont on parle aujourd'hui là. Oui, parce que effectivement, la volonté de combattre et l'efficacité, la capacité de mouvement, puisque c'est une guerre de mouvement en réalité, des Ukrainiens l'emporte sur les Russes. On se demandait au départ si les Ukrainiens pourraient facilement finalement reprendre les territoires conquis, parce que c'est toujours plus difficile de reprendre que de défendre. En réalité, les défenses russes n'étaient pas à la hauteur de la mobilisation ukrainienne. C'est ce qui explique que toutes ces pertes de villages. Au total, les Ukrainiens disent qu'au cours des dernières semaines, ils ont reconquis une cinquantaine de villages au total.
Et je voulais rappeler également à quel point ces offensives, elles ont été préparées minutieusement en amont. Ça fait depuis 5-6 mois. On a eu très peu d'ailleurs de compte rendu. Et d'ailleurs, les Ukrainiens restent très discrets, évidemment, sur ce qui se passe et sur ce qu'ils préparent. Mais on a eu un compte rendu assez détaillé qui avait été donné en off aux médias américains du côté des États-Unis, en disant à quel point il y a eu des rencontres qui ont été quotidiennes finalement à la fin, plusieurs scénarios qui ont été échafaudés, à quel point la région de Kharkiv finalement effectivement avait été désignée comme première région, mais que Kherson n'était pas du tout un leurre, au contraire, mais que ça irait effectivement à un rythme beaucoup plus lent. Donc ce sont des offensives qui sont préparées minutieusement avec les Américains, mais les Américains eux-mêmes disent qu'ils sont surpris par l'efficacité redoutable des Ukrainiens sur le terrain.
Alexander Kirev, vous parliez tout à l'heure d'effondrement de la ligne de défense côté russe. Est-ce que vous arrivez à expliquer cet effondrement-là du point de vue des hommes, du point de vue des munitions? Est-ce qu'il manque d'hommes? Est-ce qu'il manque de munitions? Est-ce que tout ce qu'on a pu raconter sur l'état de l'armée russe ces dernières semaines se vérifie aujourd'hui?
Il y a plusieurs choses. Ça se vérifie. Je suis personnellement allé sur des bases russes. Effectivement, ils ont un matériel qui date de la Seconde Guerre mondiale. Hein, littéralement, leur casque, c'est du carton. Il y a aussi le fait que les Ukrainiens connaissent le terrain. Il y a aussi le fait que la force, entre guillemets, alors il y a l'armée régulière, il y a aussi les forces territoriales. Les forces territoriales sont aussi des Ukrainiens, des civils qui se sont engagés dans l'armée au début de l'invasion, dont la plupart de la famille se trouve dans ces territoires ou près de ces territoires. Ça veut dire que quand les Russes ou quand il y a une grosse concentration de Russes, leur famille les préviennent, tout simplement. Quand ils arrivent à les prévenir, les préviennent. Donc ce qui crée en fait de facto, alors on parlait effectivement des Américains, mais c'est aussi pour le coup des Ukrainiens, de facto un réseau de renseignements à travers la famille, à travers les amis qui sont restés. Ce qui fait que dès qu'il y a une concentration très importante de Russes, bien les Ukrainiens, c'est pas un secret, hein, les familles qui sont restées préviennent les forces territoriales de défense. Ce qui fait que les Russes finissent par être obligés d'étirer la ligne de front. Et ce qui explique en fait cette fragilité de cette ligne de front, et ce qui explique pourquoi les Ukrainiens fonctionnent, plutôt la contre-offensive ukrainienne fonctionne aussi bien. En revanche, et le revers de la médaille qui est assez terrifiant, c'est que les Russes le savent et qu'ils se vengent sur la population en torturant les civils pour avoir ces renseignements-là.
Antonin.
Début de la guerre, puisque là on parle des Ukrainiens, moi ce qui me frappe, c'est la désorganisation de l'armée russe, parce que on a souvent dit sur ce plateau que l'armée russe était une des plus puissantes du monde, des mieux armées du monde. On a dit aussi ici que Vladimir Poutine avait préparé son offensive sur l'Ukraine, qu'on ne déclenche pas une guerre comme cela. Et en fait, depuis le début de la guerre, on est à chaque fois surpris par, dès les premiers jours de la guerre, les interceptions de conversations entre soldats russes qui ne sont pas ravitaillés, qui ne savent pas où sont leurs colonnes, cette première percée vers Kiev et puis ce repli pour finalement aller sur le Donbass et nous expliquer que les buts de guerre sont plutôt dans l'est du pays. Et en fait, ce que je trouve extrêmement frappant, et d'ailleurs le correspondant ici en Ukraine le dit, l'armement russe a l'air assez peu à la hauteur des enjeux de cette guerre. Et en fait, ça repose la question initiale qui est pourquoi Poutine fait cette guerre, quels sont ses objectifs précis. Et surtout, la question de la préparation et de l'impréparation. C'est quand même sidérant de voir que la deuxième armée du monde, depuis le début de cette guerre, en fait, est entravée à chaque étape. On n'a jamais eu le sentiment que les Russes étaient en train de prendre le dessus, sauf erreur de ma part.
Enfin, on l'a eu quand même au début.
Ils ont pris la ville de Kherson au début de la guerre, assez facilement.
Et après ? Qui est la seule grande ville qu'ils ont
échappé. Oui, mais ils ont quand même connu quelques succès au début de l'offensive.
Au tout début, ouais.
Et c'est vrai que depuis... Mais ça s'explique aussi d'une certaine manière parce que Poutine pensait, et l'état-major pensait, qu'ils allaient faire de Kiev une bouchée de pain et qu'ils pourraient faire tomber le régime relativement facilement et qu'ils ne seraient pas accueillis comme un ennemi, mais comme un envahisseur, mais comme un libérateur.
Mais là, il est le fond de l'affaire.
Ils n'étaient pas préparés à une guerre longue. Ils étaient là pour une offensive spéciale. Ça s'est terminé en un conflit très mortel, très, très dangereux.
Après, si je peux aussi compléter, c'est que, d'une part, nominalement, l'armée russe était la deuxième armée du monde, mais les efforts de modernisation qui ont été lancés en 2008 et en 2018, ils ont porté sur des corps d'armée et à l'intérieur de ces corps d'armée sur un certain type d'armes qui sont loin de toucher l'ensemble de l'armée russe, qui est donc pléthorique, certes, mais comme beaucoup de choses en Russie, qui auraient eu besoin de réformes qui n'ont jamais été faites parce que l'économie russe prospère sur les hydrocarbures et tout particulièrement le régime de Vladimir Poutine. Et ça faisait quand même plus de 15 ans qu'on disait qu'il fallait absolument rénover, moderniser l'armée russe. Ça n'a pas été fait à l'exception de certains secteurs. Et ensuite, pour ce qui est de la préparation de cette offensive, effectivement, on a tous été quand même surpris par la résistance ukrainienne. Il y a encore plus d'un mois, nombre d'observateurs disaient que une contre-offensive, c'était pas du tout dit qu'ils en soient capables. On parlait de potentielles contre-attaques, mais certainement pas deux ou trois contre-offensives simultanées. Peut-être qu'en un sens, ça leur a servi. Mais voilà, il y a quand même ça. Et il y a le fait que le projet politique de Vladimir Poutine, il est basé sur des représentations de ce que sont l'Ukraine et la Russie qui n'ont plus rien à voir avec la réalité ukrainienne. Parce qu'il y a eu 8 ans de guerre, 8 ans qui ont aussi forgé un début de sentiment national en opposition avec la Russie. Mmh. Et les représentations qu'ils avaient notamment de la région de Kherson, elles sont passées, ils ne sont pas du tout pensé qu'ils allaient faire face à une opposition et à une résistance civile intérieure aussi déterminée. Mmh. Kherson, ce n'est pas tenable pour les Russes.
Colonel.
Oui, alors j'ajouterais que le plan initial était complètement erroné, hein, très, très clairement, et il surestimait les capacités réelles de l'armée russe, sous-estimait celles de l'armée ukrainienne, et l'armée russe s'est brisée dans le premier mois de la guerre. C'est-à-dire un tiers de toutes les pertes russes de la guerre, maintenant, on le sait, c'est dans ce premier mois, c'est essentiellement autour dans la bataille de Kiev, qui était présentée comme un leurre par certains. Mais en fait, non, c'était un désastre russe. Et la machine de guerre russe ne s'est jamais vraiment remise de ses pertes durant ce premier mois. Et comme il n'y avait pas de plan B, il n'y avait pas de... Et on le voit bien d'ailleurs, hein, au bout de 7 mois, personne n'avait planifié une mobilisation. Ce qui paraît assez extraordinaire. Et donc, petit à petit, cette armée elle s'est réduite en capacité. Et il y a eu un autre tournant, c'était au mois de juillet. On s'attendait, on avait rétréci les objectifs malgré tout, c'était le Donbass, on avait réduit, simplifié les modes d'action, hein, artillerie, assaut, ils avaient réussi à s'emparer de Lysychansk, Severodonetsk, et on pensait que peut-être, dans la foulée, ils allaient pouvoir s'emparer de Slovansk et Kramatorsk, ce qui était leur objectif. Et puis tout s'est arrêté au mois de juillet, d'un seul coup, parce qu'on s'est aperçu que même dans ces 3 mois de combat très violents, ils avaient aussi à nouveau perdu des hommes, notamment dans toutes les unités qui étaient engagées à l'assaut, c'était toujours les mêmes, sensiblement, et ils les ont là aussi cassés. Et puis à chaque fois, ça se réduit, alors que l'armée ukrainienne, elle, montait en puissance en même temps. Et donc il y a le croisement des courbes à l'été.
Et le résultat, ce sont ces scènes qui se répètent, comme dans cette localité du côté de Kherson ce soir, avec ce drapeau ukrainien qui est planté par les militaires ukrainiens qui reprennent la ville.
Gloire à l'Ukraine. Le village de David Lidbird a été libéré des Russes par les forces de la 35e. Nous levons solennellement le drapeau jaune et bleu sur David Lidbird.
Слава Україні! Alexander Kéré, je reviens à vous. On a ces images qui nous parviennent, localité après localité, les mêmes images avec ces drapeaux qui sont plantés. Mais dans quel état est-ce que les Ukrainiens récupèrent ces localités ?
Mais dans un état absolument désastreux. Alors, je voulais juste faire un tout petit retour sur la structure de l'armée. Effectivement, il y a une montée en puissance de l'armée ukrainienne, simplement parce que les Ukrainiens, depuis 8 ans, en fait, se battent, en fait, se sont formés pour ça, alors que du côté des Russes, ce sont généralement des contrats assez courts. Donc, c'est une armée qui est très différente à ce niveau-là. Mais je reviens effectivement sur l'état des localités. Généralement, tout est détruit. La plupart du temps, les Russes ont pris leur quartier, pour ainsi dire, donc dans les hôtels dans les commissariats de police et dans des écoles aux alentours. Donc, ce qui fait aussi de ces administrations-là des cibles aussi pour les Ukrainiens. Et en général, ils sont transformés, la plupart des commissariats locaux, centre de détention et de torture. Et aujourd'hui, on continue à découvrir là depuis le début de la libération de l'oblast de Kharkiv, on a découvert 18 chambres de torture. Donc quand je dis chambres de torture, ça c'est 18 salles dans lesquelles torturaient des gens. Et même aujourd'hui, les Ukrainiens ont découvert justement, j'allais dire, je passe sur les détails, mais j'aimerais bien ne pas passer sur les détails, bien notamment une boîte avec les images vont faire le tour sans doute, ou ont déjà fait le tour de d'internet, avec une boîte avec des dents arrachées d'Ukrainiens, voilà ce genre de choses, des masques à gaz qu'ils utilisaient justement à ce niveau-là. Et on a de plus en plus de témoignages d'Ukrainiens, de vétérans aussi de la guerre de 2014, qui commence en 2014, qui sont torturés, électrocutés, voilà, parfois pour avoir des renseignements, souvent gratuitement.
Merci Alexander Kéré d'avoir été en direct avec nous ce soir dans 22h Max sur BFM TV. On continue d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, cette accélération du côté de l'Ukraine, avec ce soir les Russes qui reconnaissent, carte à l'appui si je puis dire, perdre du terrain dans une proportion qu'il n'avait pas connue jusque maintenant, que ce soit dans l'Est ou que ce soit également dans le Sud. Vous voyez ces cartes-là avec des zones de combat et effectivement cette accélération. On va en parler ce soir, on sera dans une seconde avec une députée ukrainienne qui nous attend à Kiev parce que vraiment c'est l'information de la soirée. Je vous salue, Alona Shkrum, je viens à vous dans une seconde. Merci d'être déjà en place, d'être déjà avec nous ce soir en direct. Une question quand même, colonel Gonia, j'insiste, sur l'état de l'armée ukrainienne. Je lisais cet après-midi que l'armée ukrainienne maîtrisait à merveille l'art opératif. Qu'est-ce que c'est que l'art opératif ?
L'art opératif, c'est la manière de traduire des objectifs stratégiques en bataille gagnée.
En clair, l'état-major décide, il faut l'appliquer.
Voilà ce qu'on veut atteindre. Et puis, vous avez les états-majors qui font des plans, qui disent, ben voilà, dans la région de Kherson, ben on va faire comme ça. Et puis, dans le commandement de la région Est, qui dit, voilà, ben dans la région de Kharkiv, on va faire comme ça. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. C'est la capacité à planifier, à construire, à organiser des opérations.
Et les Ukrainiens, vous êtes alors devenus la meilleure armée d'Europe aujourd'hui. Ils sont les meilleurs aussi dans l'art opératif.
Oui, bien sûr. Déjà, ils sont capables de mener des opérations avec plusieurs brigades, plusieurs dizaines de milliers d'hommes, chose que les Russes ne sont actuellement plus capables de faire. Alors, ils n'ont plus non plus les dizaines de milliers d'hommes capables de manœuvrer. Voilà, ils sont aidés, bien sûr, conseillés par les Américains, hein, peut-être à distance ou sur le terrain, peu importe. Bien sûr, ils subissent des conseils, mais ils sont aidés. Voilà, ils se débrouillent bien. Faire travail d'état-major, faire de la planification d'opération, ça ne s'improvise pas, c'est un métier.
Alona Shkrum, on vous retrouve en direct de Kiev, députée ukrainienne. Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce qui est en train de se passer, d'après vous, ce soir ? Quel mot est-ce que vous mettez sur la situation ? On parlait de tournant tout à l'heure, on parlait d'effritement de l'armée russe, on posait la question de l'effondrement de l'armée russe. Quels sont vos mots ce soir pour décrire ce qui est en train de se passer ?
Bonjour. Merci de m'inviter ici. Mais en effet, je ne suis pas une experte militaire, mais je peux vous dire que je connais beaucoup de gens qui sont soldats maintenant là-bas, à l'Est, et je sais que c'est à cause de toute l'aide que nous avons reçue, bien sûr, de France et des autres pays, mais à cause que notre soldat sont super motivés de libérer les territoires. Et les soldats russes, ils vraiment ne comprennent pas pourquoi ils sont là et pourquoi ils meurent ici. Parce que la propagande russe, elle finit vraiment ici avec la connexion de réalité pendant la guerre, quand les Russes voient que la population soutient complètement les soldats ukrainiens, les armées ukrainiennes, et la population joue ici un rôle super important comme la résistance. Et bien sûr que la propagande ne marche pas. Et les soldats russes, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont ici. En effet, et pourquoi les régions ont été annexées, parce que le Douma et le Parlement russe se sont votés aujourd'hui et hier pour cette traité d'annexion. Mais ça ne signifie rien. Et c'est une propagande horrible et une décision horrible de Poutine et de gens à côté de lui.
Reste avec nous, Alona Shkrum. Une chose, Elsa Vidal, effectivement, sur laquelle on n'a pas encore insisté. Tout ça, cette accélération, ces villes, ces localités, villes, villages reprises les unes après les autres, tout ça se passe 4 jours après cette cérémonie, ou 4 ou 5 jours après cette cérémonie grandiose du côté de Moscou, où Poutine annexait officiellement ces régions-là. Le contraste, il est saisissant.
Oui, c'est le démenti le plus cinglant qu'on pouvait apporter à ces déclarations d'annexion. Mais la question qui se pose de notre côté, c'est est-ce que ça fragilise le pouvoir russe ? Et je pense que pour le moment, ça ne le fragilise pas dans son électorat. Ça le fragilise à nos yeux et certainement pour des observateurs intérieurs bien informés. Mais dans l'électorat, il y a fort à penser que l'électorat russe ne voit pas cette catastrophe militaire sur le terrain. En revanche, ça nous informe bien quand même sur le rapport de force. Et c'était crucial, je pense, pour Volodymyr Zelensky de pouvoir lancer ses contre-offensives maintenant comme démenti. Et comme, comment dire, la dénégation, l'opposition du réel par rapport au discours politique.
Alona Shkrum, on vous retrouve. Vous étiez venu sur ce plateau il y a quelques mois, au début du conflit, et vous nous disiez à l'époque, vous verrez, on va gagner cette guerre, on va la gagner. Et sur ce plateau y compris, on avait des doutes, parce qu'on se disait, mais l'armée russe est beaucoup plus puissante que la vôtre. Est-ce que ce qui est en train de se passer ce soir, ces reprises de contrôle par l'armée ukrainienne, vous fait encore plus être confiante et être sûre de la victoire ukrainienne ?
Mais bien sûr, la morale ici pour les Ukrainiennes, c'est super, super haut. Et en effet, j'ai dit ça avant et je dis ça maintenant. On va gagner parce que c'est notre territoire, c'est notre pays, c'est notre vie, c'est nos enfants. Et nous savons, on combattre pour protéger les valeurs communes, notre vie et tout ça qu'on a maintenant. Ce n'était pas nous qui a fait quelque chose. C'était la Russie et le dictateur Poutine qui était complètement un terroriste, qui a menacé et menace maintenant avec l'armée nucléaire. Et bien sûr que notre morale et notre raison pour pourquoi on protège nous et pourquoi on combattre, c'est la raison beaucoup plus... beaucoup plus important en effet. Beaucoup, il donne les possibilités de combattre beaucoup plus avec la morale beaucoup plus intéressante, bien sûr. Mais je suis d'accord que les Russes sont encore isolés, en particulier les Russes de grands territoires, si pas le Moscou ou Saint-Pétersbourg, mais tous les grands Russes, ils sont complètement isolés, ils sont sur la propagande. Bien sûr que Poutine ne veut pas dire qu'il perd cette guerre. Et je sais que la Poutine a son anniversaire, en effet, dans 2 jours, le 7 octobre. Et il a 70 ans. Et c'est super important pour lui de faire une signe pour cette date. Et il est toujours sur le date. Et c'est pourquoi je pense qu'il menace tout le monde maintenant, et la France, les États-Unis, aux pays de l'OTAN, aux nous, bien sûr, avec le menace nucléaire et avec l'armée nucléaire. Et c'est pourquoi c'est super important de pousser maintenant de tous les endroits, de la part de l'ONU, de la part de président Macron, et il fait ça, de la part de nos soldats, et nos l'armée, et de la part de côté militaire et de la part du côté diplomatique aussi. Parce que Poutine est capable de tout, il est complètement fou. Et j'espère que les élites russes et les gens qui sont à côté de Poutine comprennent qu'il faut sauver leur propre vie maintenant.
Merci beaucoup, Alain Lachkrum, d'avoir été en direct avec nous ce soir sur BFM TV. Ulysse Gosset, on réentendra déclaration importante ce soir, on réentendra Zelensky aux alentours de 23h. Zelensky qui dit « Nous avons repris des dizaines de localités, plusieurs dizaines de localités ». C'est encore une fois l'information principale ce soir, notamment parce qu'elle est confirmée en grande partie par les Russes et par les cartes russes. Alain Lachkrum nous disait à l'instant « On va gagner ». Qu'est-ce que ça veut dire gagner aujourd'hui pour les Ukrainiens et pour Volodymyr Zelensky ?
Ben, l'objectif aujourd'hui, c'est clairement la grande ville de Kherson. S'ils arrivaient à la prendre, ça serait un symbole tellement humiliant pour l'armée russe et pour Poutine. Ça serait justement, comme le disait tout à l'heure à la fois le député et sur le plateau, la mise en perspective du réel, de la guerre, du front et du monde irréel dans lequel vit Poutine ou dans lequel il veut faire croire à ses habitants que la Russie est actuellement. Donc c'est un choc, si vous voulez, terrible pour l'armée russe, c'est une humiliation pour les Russes. Et donc, évidemment, pour les Ukrainiens, ça serait une très belle victoire. Symbolique, politique, mais aussi militaire, parce que Kherson, c'était 300 000 habitants avant la guerre, il n'y a plus que 100 000 habitants aujourd'hui, c'est le contrôle russe. Et il y a eu cette phrase de l'un des dirigeants russes de Kherson, pro-russe, pardon, et qui a dit... Il n'y a pas de raison de paniquer, mais le simple fait qu'il ait besoin
oui,
de dire,
commence à dire ça.
Pas de panique en dit long sur le climat qui doit régner dans cette ville. Les Russes, se disent que peut-être ils vont avoir du mal à défendre Kherson. Et donc sur le plan stratégique aussi, c'est important parce que Kherson c'était la tête de pont pour aller à Odessa. S'il y avait eu le plan de prendre Odessa, si les Ukrainiens prenaient Kherson, Odessa c'est fini comme objectif de guerre.
Donc, et derrière, c'est l'accès à la mer Noire, etc.
Parce que voilà, les Russes seraient obligés de se replier derrière le fleuve, et donc il n'y aurait plus d'accès possible à la mer Noire. Et ça placerait Poutine dans une situation très difficile, et ça l'obligerait à réagir. Même aujourd'hui, ce qui se passe, d'une certaine manière, devrait l'obliger à réagir. Donc la question, c'est que peut-il faire ? Et qu'est-ce qu'il a en tête ? Et cela, vraiment, personne ne le sait aujourd'hui. Mais si Kherson tombait... S'il ne réagit pas, on pourra dire qu'il aura perdu la guerre.
Je posais la question de savoir ce que veut dire gagner pour les Ukrainiens, parce que Pauline Simonet, certains disent qu'il faut qu'on récupère nos territoires, tous les territoires, y compris, par exemple, la Crimée qui a été perdue il y a 8 ans.
Oui, effectivement, c'était impensable il y a encore quelques semaines, et d'ailleurs... La plupart des experts militaires n'envisagent pas que ce soit réellement possible maintenant dans l'immédiat, mais c'est beaucoup moins fantaisiste qu'auparavant. Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky, on l'a entendu lors de son discours à l'ONU, il avait dit à quel point il voulait récupérer non seulement le Donbass, mais revenir aux frontières d'avant 2014, donc récupérer également la Crimée. Et cette semaine, c'est ce qu'a dit Tamila Tacheva, c'est la représentante de Volodymyr Zelensky pour la Crimée occupée. Elle l'a dit dans le Guardian, c'est le moment. En ce moment, tout se passe de telle manière que cela semble inévitable. Ça n'arrivera peut-être pas demain, mais je pense, a-t-elle dit, que ce sera beaucoup plus rapide que ce que je pensais il y a un an. Et d'après le Guardian, eh bien, il y a un projet très concret qui est en cours pour repeupler, à un moment donné, après 8 ans de domination russe, la Crimée. Combien de policiers, combien d'enseignants il faudrait renvoyer en Crimée. Donc, même si ça paraît encore impensable, c'est un projet qui est concrètement en cours chez les Ukrainiens.
Elsa Vidal, on n'est pas, on n'en est pas encore là, mais on le voit ce soir, les dominos sont en train de tomber d'une certaine manière.
Oui,
ils ont commencé à tomber.
Ils ont commencé à tomber, et puis dans les déclarations de Volodymyr Zelensky, il y a plusieurs choses, je pense, qui valent le coup d'être rappelées, parce qu'elles sont ce sont des messages à l'attention des Russes. D'une part, ce qui est rappelé par le président, c'est qu'il est tout à fait disposé à négocier avec la Russie, mais pas avec Vladimir Poutine. Donc, si on se rappelle le début de cette guerre, où on avait des appels à se rendre, envoyés par les dirigeants russes, notamment Vladimir Poutine, en direction des généraux ukrainiens, aujourd'hui, on a l'inverse. On a clairement le président ukrainien qui cherche à semer la discorde dans l'élite russe. Ensuite, qu'est-ce qui a été dit ? C'était de donner des assurances aux populations ukrainiennes qui vivent sous occupation russe, qu'ils ne seront pas considérés comme des traîtres ou comme des collaborateurs. Alors, pas ceux qui ont accepté d'exercer des fonctions publiques, mais en tout cas, les habitants, le président a communiqué à leur endroit pour essayer, de créer un soutien et éviter des grands mouvements. Ensuite, pour la question de la Crimée, évidemment, en ce moment, ça paraît absolument impossible militairement, mais ça pourrait tout à fait être discuté dans une négociation qui aurait été arrachée par une victoire dans le Donbass et qui s'ouvrirait avec la discussion sur la totalité du package, c'est-à-dire tous les territoires qui ont été pris à l'Ukraine. Et je voudrais juste rappeler que l'intégrité territoriale de l'Ukraine, la Russie, s'en est portée garante en 1994, en l'échange du désarmement nucléaire de l'Ukraine.
Il faut imaginer le chemin qui a été parcouru, effectivement, les renversements qu'il y a eu depuis le début de la guerre. On se souvient qu'en janvier, avant le début de l'invasion, Joe Biden, d'ailleurs, ça avait créé un scandale à l'époque. Il avait osé dire que finalement, si c'était une mini-invasion qui concernait que le Donbass ou l'Est de l'Ukraine, les Américains fermeraient les yeux, c'était encore pour tenter d'empêcher cette gigantesque invasion. Finalement, Vladimir Poutine a tenté d'aller jusqu'à Kiev. Et voilà maintenant que les Ukrainiens parlent même éventuellement de récupérer la Crimée. Donc il y a vraiment eu un basculement.
Juste un point quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Crimée, c'est une chose, mais en Crimée, il y a Sébastopol, c'est le siège de la marine russe. Donc pour les Russes, d'abord, la Crimée, pour eux, c'est vraiment encore plus russe que le Donbass, si j'ose dire. Ça remonte à Catherine II, ça fait donc quelques centaines d'années. Mais surtout, il y a cette base navale. C'est-à-dire que si les Russes perdaient la Crimée et qu'ils perdent également Sébastopol, c'est quelque chose qui apparaît aujourd'hui absolument inimaginable.
Inacceptable.
C'est-à-dire que là, pour Poutine, c'est parce que Poutine a envahi la Crimée après avoir négocié avec l'Ukraine la capacité de garder cette base pendant plusieurs années. Donc, il y avait eu un accord. S'il perdait aujourd'hui la Crimée, c'en est fini de Sébastopol. Donc, ça serait, j'allais dire, un casus belli, puisque officiellement, la Russie n'a toujours pas déclaré la guerre à l'Ukraine. Mais si Sébastopol tombe, alors c'est vraiment un casus belli, et je pense évidemment à quelle riposte pourrait imaginer Vladimir Poutine.